pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Dans les sociétés technologiques, il y a un problème, je le règle. La question de l'inondation, quand il y a un problème, on ne le règle pas. Toute l'histoire de la lutte contre les crues indique que à chaque fois qu'on a créé une protection qu'on estimait bien meilleure que toutes celles qui étaient auparavant, on a eu à un moment ou à un autre un dépassement. Ce dépassement est beaucoup plus grave quand ça arrive sur un terrain où il y a une fausse sécurité qui s'est installée que quand on l'attend. Il vaut mieux être prévenu des phénomènes aléatoires et être capable de réagir quand ça arrive. C'est comme ça qu'on assure une très bonne sécurité. Alors que si on commence par expliquer que le risque a disparu, comme il n'a pas disparu, quand il apparaît, alors il est dramatique. En très gros, c'est être capable de vivre avec et pas contre, dompter la nature en oubli, la comprendre et être capable d'avoir le comportement adapté par rapport à ce qui va se passer. C'est un peu ça le signe de l'intelligence. C'est pas de se mettre devant en disant ça se passera jamais.
Il est illusoire de chercher à dompter ce qu'on appelle la nature. Il ne faut pas aller contre la nature, mais avec elle. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de notre série SOS H2O, au secours, pour lequel on retrouve Gilles Deguay, militant écologiste chevronné, représentant de France Nature Environnement. Et c'est d'ailleurs à ce titre que Gilles siège également au comité de bassin Loire-Bretagne. Et aujourd'hui, on va encore parler de la Loire, alors non pas par chauvino-régionalisme, hein, oh mais qu'il est beau mon dernier fleuve à peu près sauvage d'Europe, mais la Loire à titre d'exemple pour parler de l'eau douce des fleuves et des rivières en général, même si la Loire a ses particularités. Alors après avoir au précédent épisode beaucoup évoqué la pénurie d'eau douce, pénurie due, entre autres facteurs, à des décennies de remodelage des paysages, remembrements et autres pratiques agro-industrielles destructrices, aux dramatiques conséquences auxquelles s'ajoute celle du réchauffement climatique, nous allons dans cette émission non pas parler du manque d'eau, mais de son excès éventuel. On va parler des crues et des inondations qui ont toujours existé et qui sont dans l'ordre des choses. Mais le parcours de l'eau a été accéléré, notamment par la canalisation des cours d'eau, le bétonnage des sols, la destruction des zones humides et du bocage qui retenait l'eau, accélération des mouvements de l'eau qui rend les éventuelles crues beaucoup plus subites et violentes, comme la crue de Vaison-la-Romaine de 92. Et comme Gilles va nous l'expliquer, il est illusoire donc, et dangereux, de croire que l'on peut contrôler et endiguer la puissance de l'eau. Bonjour Gilles.
Eh bien bonjour, pour la quatrième fois.
Quatrième volet de cette série autour de l'eau. Donc on enregistre cette émission à Tours, en région centre, où nous avons le plaisir, le privilège d'avoir la Loire qui passe par chez nous. On a, au cours d'un épisode précédent, parlé sécheresse, raréfaction de l'eau. J'ai évité de dire raréfaction de la ressource en eau. Hein, on parle beaucoup d'anthropomorphisme et centrisme au cours de ces entretiens. Comment on voit tout ça à travers nos prismes de sapiens sapiens, ou pensant savoir en tout cas. Et aujourd'hui, après le thème de la raréfaction, de la sécheresse, on va parler un peu du contraire. On va parler inondation. Et si on se promène sur les bords de Loire à Tours, notamment sous le pont Wilson, on voit ces marques de ce qu'on appelle des crues centennales. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est qu'une crue centennale. Et notamment les marques concernant, je crois, de mémoire 1846, 56, 66, très très hautes, trois crues. Quand on se promène sous les arches du pont, là, c'est très impressionnant. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une crue centennale ?
Ah, tu veux qu'on commence par ça ? À un moment, on expliquera que la crue sur la Loire a quelque chose de particulier par rapport à d'autres crues notamment sur les évolutions. Il y aura vraisemblablement beaucoup plus de crues assez classiques et assez ponctuelles. Est-ce qu'il y aura plus de crues sur la Loire? Je crois que personne ne sait. Et comme toujours, quand personne ne sait, il vaut mieux se prémunir. Mais bon, voilà. Crue centenale. Alors, c'est un terme, moi j'ai découvert ça, et puis je pense que tout le monde a découvert ça, dans le milieu des années 90. La définition précise, c'est une crue qui a une probabilité de 1 centième d'arriver tous les ans. Dit autrement, si on prend une fréquence étalée sur beaucoup d'années, disons 1000, 2000 ans, le niveau qui a été atteint, il serait atteint, alors par exemple si c'est sur 2000 ans, il serait atteint 20 fois pendant la période de 2000 ans. C'est-à-dire il serait en moyenne tous les 100 ans.
Pas de bol quoi, 1846, 56, 66, là ça défie toutes les probabilités donc.
Alors, je pensais que tu allais faire une autre objection avant, c'est que, mais qui a des séquences de 2000 ans pour pouvoir compter combien il y a de fois le débit parce que c'est évident qu'il y a même 1000 ans, il n'y avait pas grand monde qui allait calculer les débits quand il y avait un épisode de forte crue.
Oui, tu as raison d'ailleurs, qui a dit ça?
Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est, si on reprend mon exemple, hein, sur 2000 ans, ça s'est produit 20 fois, mais ça s'est produit 20 fois sur 2000 ans. Peut-être qu'il y en a 3 qui sont produits dans 30 ans. Ça n'empêche pas le fait que ça soit centenal. C'est ça l'histoire de la probabilité. La probabilité, elle ne dit pas ce qui va se passer après. Elle dit que ça s'est passé. Voilà. Mais la probabilité reste toujours de 1 sur 100 pour tout ce qui vient derrière. Et donc, après la crue de 46, y a toujours une probabilité, une chance sur 100 que ça se produise. Ça se produit en 56 aussi, ce n'est pas totalement anormal. Alors quand même, en théorie de probabilité, un machin qui a une probabilité de se produire tous les 100 ans, le fait qu'elle se reproduise 2 années de suite, là la probabilité devient plus faible, beaucoup plus faible. 1 centième par 1 centième, donc quasiment 1/10. Et donc la probabilité devient très faible. Que ça se produise 3 fois, là ça commence à devenir un peu plus compliqué. C'est possible, puisque c'est qu'une probabilité. Donc tout est possible, y compris le côté totalement exceptionnel. Ça n'empêche pas que sur la moyenne, ça reste jouable. Cependant, la probabilité que ça arrive, que ça soit arrivé, si c'est vraiment en centenale, ça paraît vraiment très très faible la probabilité que ça se passe. Et donc, on peut vraisemblablement imaginer que quand on a dit qu'elle était centenale, on était un peu en dessous du trait. Mais bon, après, si on prend à partir de 1850, on est rendu à plus de 2000, ça fait 150 ans, il y en a eu 3 en 150 ans, si on est sur des moyennes, on commence à arriver sur des périodes qui sont relativement plus faibles. Voilà, bon. Donc c'est des statistiques, c'est des probabilités, et probabilités, c'est pas des éléments qui disent « ça y est, on a tout épuisé, et maintenant on est tranquille pendant 100 ans ». Ça fonctionne pas du tout comme ça, on a la même probabilité après qu'avant. Voilà, bon, pour dire les choses. Alors, donc, premièrement, est-ce que c'était des crues centenales? Probablement, c'était pas des crues centenales, c'était un peu plus que ça, c'était sur des périodes probablement un peu plus rapprochées à cette époque-là. Mais c'est pas sûr. Je dis probablement, mais c'est pas sûr. Voilà. C'est tout à fait normal que ça se reproduise. C'est pas contraire à la théorie probabiliste que ça se produise 2 fois de suite. Donc ça, première chose. C'est une probabilité, c'est pas un truc... Alors après, la bonne question, j'aime beaucoup cette question parce que dans les années 90, on a commencé à nous expliquer ce que c'était des crues centenales. Et on a commencé par nous expliquer que c'était des théories probabilistes, et ce que je viens de t'expliquer là. Alors ça, ça fait partie du béaba. Maintenant, il n'y a plus personne qui pense que ça se produit tous les 100 ans, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, puisque c'est des probabilités. Et puis, il y a quelqu'un que j'aime bien citer qui s'appelle Michel Durand, qui a été président de la CEPAND, qui a été avec moi militant à Loire-Vivante, qui un jour, dans une réunion au moment de Loire-Vivante sur l'inondation, a posé la question à son interlocuteur, mais comment vous faites? Vous nous donnez des débits de crues centenales, mais comment vous avez trouvé? Comment vous avez calculé? D'où il sort ce chiffre? Et on lui a expliqué ce que je viens d'expliquer, ça ne veut pas dire... Il a dit, oui, mais ça, je comprends ce que ça ne veut pas dire. Mais maintenant, dites-moi ce que ça veut dire. Hein, arrêtez de me dire ce que ça ne veut pas dire, dites-moi ce que c'est. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une séquence de 2000 ans qui vous permet de faire, de façon raisonnable, de transformer votre étude statistique en étude probabiliste? Est-ce que vous pouvez faire ça? On regarde au plafond, non. Vous estimez que vous en avez combien de séquences? 150 ans. Donc, alors tu dis, d'accord, 150, même, allez, mettons 200 ans. Donc, sur 200 ans, vous faites une probabilité que ça se produit tous les 100 ans. Vous êtes capable de faire ça et tout. Les gens disent, ben, sans doute pas comme ça. Et son interlocuteur ne savait pas comment c'était fait. Alors, il se trouve que lui savait. On fait une courbe. C'est-à-dire qu'on met le débit qui atteint, en abscisse par exemple, et puis en ordonnée, on met quelle est sa fréquence. Mais sa fréquence, cette fois, mesurée. Combien de fois on l'a vu pendant la période, la séquence qu'on a de 150 ans. Alors bien entendu, des trucs qui se produisent en moyenne tous les 10 ans, on a une donnée quasiment sûre, qui ne bouge pas beaucoup. On pourra entendre 100 ans de plus, ça va être à peu près pareil. Parce qu'on a une répétition qui est suffisante. On a 15 années de répétition, on arrive. Donc on a une vraie précision sur cette valeur-là. Ensuite, si on va sur qui se produit tous les 20 ans, la fréquence va plutôt baisser, forcément. Puis ce qui se produit tous les 50 ans, on commence à avoir une valeur, mais on met la valeur mesurée, hein, seulement la valeur mesurée. Et puis on estime qu'à partir de 50 ans, on ne sait pas trop. Alors là, on regarde l'allure de la courbe. Alors soit on a des trucs qui font des calculs, mais on peut le faire aussi à la main. Hein. On regarde la courbe, puis on descend. Puis on dit, bon, ben voilà, ce qui se produit tous les 100 ans, c'est à peu près là. Et puis c'est tout. On fait ça par extrapolation. Est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Ben, on a une bonne idée. Mais c'est absolument abusif de dire qu'on le sait précisément. Et donc, tous les débits de crue centenale, il faudrait pouvoir demander à combien vous estimez l'erreur. Et l'erreur est colossale sur ces trucs-là. Et donc, donner des crues centenales à 20 cm près, c'est juste délirant. C'est juste pas possible. Mais c'est joli. Et puis en plus, ça permet d'expliquer, mais attention, ça ne veut pas dire que ça va se passer tous les 100 ans, etc. Mais ça ne dit pas comment on l'a trouvé. Et on l'a trouvé par extrapolation de données qui étaient relativement sûres, qui permettent d'avoir des données qui sont moins sûres. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup citer. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais je crois qu'elle l'est. Ça se passe à Caen. Et à Caen, le maire de l'époque, qui a dû être ministre des PTT, si je ne me trompe, mais j'ai oublié son nom, dit « on va prendre des précautions et on ne va pas construire dans des endroits où il y a une crue centenale qui peut arriver ». Et donc il fait travailler des bureaux d'études qui lui filent une côte centenale. Et donc il regarde et il fait des tracés dans la ville et il construit, mais en dehors de la période de la crue centenale. Peut-être 5 ans après avoir fait ce plomb, machin, il a commencé à construire et tout, arrive une crue qui fait que sa zone où il a construite est 1 mètre sous l'eau. Alors, il va voir les mecs, les scientifiques qui lui ont filé le truc et il dit « Attendez, vous foutez de ma gueule là et tout, c'est pas possible. » Il lui explique « Mais attendez, c'est une probabilité. Hein. » Donc voilà, une probabilité, ça veut dire que ça peut être plus haut que ça. Et donc, 10 ans après, ça recommence. Encore une fois, il va mettre au-dessus. Là, il dit, quand même, c'est un peu bizarre, quand même, ce qui arrive. Le plus beau, c'est quand il veut recommencer son plan et qu'il va redemander les trucs de crue centenale. Et là, il découvre que dans les documents de référence, la crue centenale à Caen a pris un mètre. Ben oui, parce que comme il y a eu deux événements qui se sont produits, le truc a monté, forcément. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Donc on ne savait pas, on faisait ça au trait. Mais là, ça bouge le trait. Donc la courbe change, l'approximation change au fur et à mesure qu'on a plus de données. D'accord ? Et quand on a beaucoup de données qui font beaucoup augmenter, et tout, alors les deux épisodes-là, sur les trucs qui se produisent tous les 10 ans, ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'il y en avait eu, je ne sais pas, 7, 8, 10, 2 de plus, ça ne change pas beaucoup le truc. Mais sur les trucs qui sont censés se passer tous les 100 ans, où il y en avait peut-être 1, peut-être 0, il vient d'en apparaître 2 de plus, d'un seul coup, la courbe, bloum, elle fait un petit coup vers le haut. D'accord ? Donc, on s'est retrouvé avec la modification. Et si on ne comprend pas ces éléments-là, on ne comprend pas grand-chose à ce que c'est que, en très gros, on essaye de prévoir au maximum ce qui va se passer, mais on est sur des éléments probabilistes sur lesquels c'est extrêmement difficile de prévoir effectivement ce qui va se passer, etc. Et encore, on fait l'hypothèse même dans ces cas-là qu'on n'est que sur des conditions qui sont tout le temps les mêmes. Or, les conditions changent. Et alors du coup, on a introduit un concept que je trouve extrêmement intéressant, c'est le concept de crue exceptionnelle. Et ça, c'est plutôt plus intelligent que l'autre. Enfin, c'est intelligent de parler de crue centenale, à condition de savoir ce que ça signifie. Si on sait que ça n'est pas une donnée qui a été élaborée à partir d'une série statistique, que c'est une donnée qui a été un peu extrapolée à partir de, d'autres séries statistiques, bon, on sait que le concept de cinquantenal, il tient à peu près debout, et encore, voilà, mais que le concept de crue centenale, bon, il faut le manier avec beaucoup de pincettes. Alors, la crue millénale, inutile de dire que c'est juste comme lancer une pièce en l'air, hein, à peu près. Bon. En gros, on sait que ça doit monter plus haut que la crue centenale, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Bon. Donc, l'idée de la crue exceptionnelle, c'est un élément complètement intéressant, c'est l'idée de dire, on sait expliquer comment une crue arrive. Et donc là, on est plutôt sur un phénomène explicatif de la crue. Il va se produire tel truc, il va tomber tant de flottes, etc. Je peux plus ou moins programmer, modéliser le fait que ça va produire tel effet. Et puis, des fois, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu parce qu'on n'avait pas rentré dans le modèle. Et donc, voilà. Mais justement, ce qu'on n'a pas rentré dans le modèle, c'est justement totalement inexplicable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle qui réintroduit le fait des trucs qu'on n'a pas rentré dans le modèle. C'est des trucs qui sont arrivés, par exemple, sur des crues, alors très localisées. Une crue, je pense que c'était à côté de Nice ou un truc comme ça, où le nuage qui amène la pluie, d'habitude, circulait, puis il s'est arrêté. Et du coup, ça pissait de l'eau à cet endroit-là, de façon absolument considérable, et ça a provoqué une inondation qui était en dehors de tous les modèles. Et là, les gens viennent en disant « Mais on n'aurait pas pu prévoir cette crue-là, il aurait suffi de faire un modèle qui intègre le truc et tout. » Mais justement, si on ne l'a pas intégré, c'est parce qu'on n'avait pas d'exemple du tout de ce genre de phénomène. Et quand on n'a pas d'exemple du tout, on n'introduit pas des paramètres à partir de rien du tout. Donc on commence à introduire des trucs quand on a des éléments. Et je trouve que ce concept de crue exceptionnelle est un élément intéressant parce que ce que ça indique, c'est qu'il y a une décision politique de décider que par rapport à ce qu'on sait de ce qui se passe, on se prévoit une marge plus ou moins importante. Et ce plus ou moins important, c'est nous qui le décidons. Il n'y a pas d'élément de modèle qui va nous dire combien c'est. Je me suis retrouvé à expliquer ça à des gens sur, je crois que c'était des gens de Noirmoutier, qui disaient, mais attendez, pourquoi vous mettez 50 cm de plus que ce qu'on disait auparavant? Quel modèle vous le prouve? Et j'étais obligé de lui dire, écoutez, si on vous met 50 cm de plus que ce que prouvent tous les modèles, c'est bien parce qu'on prend une précaution par rapport au modèle. Si vous demandez un modèle qui permette de dire pourquoi on fait 50, alors après on vous en mettra 50 de plus. Donc voilà, c'est de l'exceptionnel. Vous avez le droit de ne pas vouloir prendre la responsabilité de mettre ces 50 cm de plus, mais vous ne venez pas demander qu'on vous donne des preuves scientifiques pour le fait que vous voulez descendre à 40 ou à 30. Hein, vous décidez ça. Vous êtes responsable, vous pouvez. Voilà. Là, on vous propose de mettre 50. On estime que c'est raisonnable par rapport à la taille habituelle. Ce n'est pas deux fois le niveau d'une crue, même centenale. C'est un peu plus qu'une crue centenale. Maintenant, si vous voulez mettre seulement une crue centenale, vous le faites. D'accord ? C'est vous qui serez responsable si ça passe au-dessus. Et donc, cette idée de la crue exceptionnelle, je trouve que c'est un élément effectivement extrêmement intéressant parce que ça réintroduit l'idée qu'il y a un choix par rapport à l'aléa qu'on veut risquer. La deuxième chose, c'est que on dit tout le temps que le risque zéro n'existe pas, alors probablement que si quand même, hein. Le risque d'inondation ou d'une montagne il est quand même assez faible, mais dans une zone qui est entre deux coteaux par exemple, dans laquelle on sait que depuis 2000 ans la rivière a divagué d'un côté sur l'autre, enfin, c'est vraiment difficile d'expliquer que c'est pas possible que ça aille à tel ou tel endroit. Donc ça fait partie du possible. La probabilité est peut-être de l'ordre de 50 ans, 100 ans, etc., 150, peut-être qu'elle est exceptionnelle. Reste que le jour où c'est exceptionnel, les gens sont quand même dans l'eau, ils y restent et tout, et c'est à ce moment-là qu'ils vont protester. Et donc c'est cette responsabilité-là qu'il faut intégrer, et c'est comment on réagit par rapport à ça. Et ce que je trouve complètement intéressant, et que donc nous on a rencontré à l'occasion des bagarres contre les barrages, c'est que toute l'histoire de la lutte contre les crues indique que à chaque fois qu'on a créé une protection qu'on estimait bien meilleure que toutes celles qui étaient auparavant, on a eu à un moment ou à un autre un dépassement. Et que ce dépassement est beaucoup plus grave quand ça arrive sur un terrain où il y a une fausse sécurité qui s'est installée que quand on l'attend. En très gros, par rapport à des phénomènes aléatoires, il vaut mieux être prévenu des phénomènes aléatoires et être capable de réagir quand ça arrive, même si on s'est entraîné 20 fois quand ça n'arrive pas, c'est comme ça qu'on assure une relative sécurité, et même une très bonne sécurité. Alors que si on commence par expliquer que ça y est, le risque a disparu, comme il n'a pas disparu, quand il apparaît, et on ne sait pas trop quand il va apparaître, alors il est dramatique. Donc en gros, toute l'idée, mais qui n'est pas naturelle dans les sociétés technologiques, hein, dans les sociétés technologiques, il y a un problème, je le règle. Voilà. Eh bien, la question de l'inondation, quand il y a un problème, on ne le règle pas. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a besoin de renverser aussi la vision qu'on a de l'inondation. Quand je fais un truc sur l'inondation, je commence par « L'Égypte est un don du Nil ». Donc, cette première chose-là sur la sécurité, la fausse sécurité, qui est le facteur probablement principal de risque létal, ça n'empêche pas forcément des dégâts matériels, mais encore que, on peut diminuer beaucoup les risques matériels si on s'est équipé, d'abord pour ne pas être à l'endroit où la flotte va passer, hein, c'est quand même le minimum, l'élément de base, hein, ne pas être à l'endroit où la flotte va être à 4 mètres, c'est mieux. Ne pas avoir des ordinateurs au sous-sol si on sait que la flotte va monter à 1 mètre, ne pas les avoir à 2 mètres si on sait qu'elle va monter à 4 mètres, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là sont des éléments qui tiennent compte de comment fonctionne la nature, et la nature fonctionne avec des inondations, hein, et c'est pas la peine d'essayer de les empêcher, elles fonctionnent comme ça, plutôt que d'essayer de dire que oh, c'est pas bien qu'elle passe, on va l'empêcher de passer, et c'est là que on prend un risque maximum. Alors après, l'autre côté de la nature est comme ça, ça passe. Il y a aussi l'idée que l'inondation, c'est un élément d'expression de la nature. Alors d'expression, c'est pas vrai parce qu'elle parle pas, enfin j'ai encore un terme, voilà. C'est un élément de la vie de la nature qui est un élément qui rentre dans un équilibre global. D'où ce que j'explique tout le temps quand on commence, qui est l'Égypte est un don du Nil. Je me souviens d'avoir appris ça, moi, hein, en quatrième ou en troisième, je ne sais pas, et tout. L'Égypte est un don du Nil. Alors, on rappelle de quoi il s'agit. L'Égypte, c'est un désert qui est traversé par une rivière qui arrive de l'Afrique centrale. Cette rivière a des crues annuelles, mais des crues, des grosses crues. Et ces crues, non seulement amènent de l'eau, mais amènent du limon. Hein, amène le sol sur lequel les Égyptiens, à partir de vraisemblablement 2000-3000 avant Jésus-Christ, ont commencé à cultiver. Et donc, l'Égypte, c'est un ruban vert au milieu d'un désert, et ce ruban vert est entièrement apporté par le Nil. C'est ça, l'Égypte est un don du Nil. Mais ça a des conséquences complètes, c'est que non seulement ben, c'est un des berceaux d'une des civilisations les plus anciennes, c'est vraisemblablement aussi un des berceaux de l'écriture, parce que comme les champs disparaissent sous la flotte tous les ans, il faut les retracer tous les ans, et que donc il y a des scribes qui prennent les mesures, qui regardent, qui, etc., qui les redonnent, qui les réattribuent, et donc il y a tout un système bureaucratique extrêmement complexe pour savoir qui récupère les récoltes, comment on retrouve sa terre et tout. Donc toute la civilisation est construite là-dessus, autour de cette respiration qui est que tous les ans ça déborde, que tous les ans ça devient fertile, et en plus ça devient fertile, et donc pour revenir à notre question, il n'y a pas besoin de mettre des nitrates dessus pour que ça pousse, d'accord ? Et c'est bien le problème des Égyptiens maintenant, parce que comme ils ont un barrage qui est complètement bloqué, les vannes de fond sont bloquées, donc ça ne libère pas les sédiments, que les sédiments restent en amont d'un soin, et ben le Nil a beaucoup moins de sédiments qu'avant, il n'a plus d'inondation, hein, ça c'est bon, hein, et tout, sauf qu'il n'y a plus du tout ces phénomènes de régulation, et le sol s'appauvrit, et puis en prime, comme les limons qui partaient arrivaient à la mer en Méditerranée et poussaient le delta progressait, et depuis qu'il ne progresse plus, il régresse, et donc la salinité remonte vers le Caire, etc. Et tout ça. Bon. Tous ces éléments-là sont des éléments de déséquilibre absolument complet qui sont liées au fait qu'on a empêché les inondations du Nil. Alors je ne dis pas qu'il faut refaire les inondations du Nil, parce que, étant donné la population qu'il y a dedans, ça risque d'être un peu un problème, mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'il y a des équilibres qui sont faits, qui portent sur le fait qu'il y a des inondations. Et dans la Loire aussi, il y a des cours principaux dans la Loire. Il y a souvent des trucs en tresse avec un bras principal, un bras secondaire. Mais les bras principaux et secondaires ont changé au cours des siècles. On en a des traces précises, hein. On a des cartographies dans lesquelles le bras... Et cette mobilité-là, ça fait partie de la vie de la rivière. Et donc, il faut comprendre ça. C'est des éléments qui sont des éléments absolument naturels. Alors, il y a plein de gens qui l'ont dit. Il y a un ministre de l'Environnement qui s'appelait Lalonde, qui a expliqué ça, qui a expliqué que la crue, ça faisait partie de la vie des rivières et qu'il fallait les garder et tout. Deux éléments. Un, c'est des éléments naturels auxquels il faut s'adapter. Et si on n'essaye pas de s'adapter, mais qu'on essaye de les empêcher, alors, d'une part, on modifie la vie naturelle de la rivière, mais elle est modifiée de plein d'autres façons aussi, et donc c'est un des éléments de plus qui la perturbe. Mais surtout, on s'interdit toute une série de moyens assez simples, finalement, qui nous permettraient de survivre s'il y a une inondation. Et du coup, la vraie lutte contre les inondations, un des éléments principaux de la lutte contre les inondations, et ça figure maintenant dans les textes officiels, c'est de développer de la culture du risque et de mettre dans la tête de tout le monde que c'est possible que ça passe. Voilà. How do we fall in love? Harder than a bullet could hit ya. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say, don't you say, don't say, don't you say. One breath and it'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands off, they make me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Chug this slow till the veins start to shiver. One last breath till the tears start to wither. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Of a endless heart. Cursed is the fool who is willing. Can't change the way we are. One kiss away from killing. Don't you say, don't you say, don't say, don't you say. One breath, it'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands out, they make me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this slow till the veins start to shiver. One last breath till the tears start to wither. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Chug this slow till the veins start to shiver. One last breath till the tears start to wither. Like a river, shut your mouth and run me like a river.
River Au cœur de cette spéciale crue et inondation, nouvel épisode de notre saga Au Secours, c'était Ben, l'oncle Saul, avant de retrouver Gilles Deguay, membre de France Nature Environnement, siégeant au comité de bassin Loire-Bretagne.
Plusieurs choses, Gilles, au cours de cet exposé autour du thème des inondations. Toujours pour revenir sur la probabilité et les statistiques autour de ces crues soi-disant centennales, il y a que depuis 1846, 56, 66, le milieu il a changé aussi. Les sols ont été imperméabilisés par l'activité humaine. Il y a eu du goudronnage. C'est ce sur quoi d'ailleurs les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont aussi lutté. Et c'est quoi le bocage? C'est une immense éponge qui sert de réserve de flotte. Aujourd'hui, cette eau, par rapport à 1846, quand il pleut beaucoup, elle ruisselle et elle se jette beaucoup plus rapidement dans le fleuve. Donc là, pareil, pour faire des statistiques et des probabilités, tout est faussé. Il y a cette activité humaine due au remembrement notamment qui vient en plus s'ajouter au cycle naturel des inondations. Il y a des facteurs qui se sont ajoutés dans ces histoires de probabilité. Et puis surtout, on va en revenir à cette notion d'anthropocentrisme. Il y a aussi tout ce délire très 19e siècle, très Jules Verne, de cette science flamboyante et conquérante qui va maîtriser la nature. Quand t'écoutes la radio, etc., quand il y a des guerres, c'est presque des choses un peu naturelles. Il y a des gentils et des méchants, forcément, etc. Mais alors, quand la nature nous fait des tsunamis, ça, c'est insupportable. Parce que la nature, elle est censée avoir été domestiquée, on lui a fermé sa gueule, on l'a canalisée, on lui a dit maintenant c'est Sapiens qui dirige, et c'est comme ça. On a mis dans la tête des gens que la science conquérante contrôlait la nature. Or, dans les temps anciens, et ça se voit dans l'architecture, en Touraine notamment, les gens vivaient avec les crues. Les trois marches pour accéder au domicile, la pièce qui sert de garde-manger, qui est à 1,50 m au-dessus du niveau du sol, les chemins qui sont creux. Parce que quand il y a des inondations, on peut y circuler avec des barques. Derrière certaines maisons tourangelles, il y a des anneaux pour attacher les barques. Donc pendant des siècles, comme les Égyptiens finalement et les crues de leur Nil, en Touraine, le monde paysan et tout ça vivait avec les inondations. C'était intégré dans la vie et on le voit dans l'architecture. Et puis il semblerait que, avec ces 30 glorieuses qui ne l'ont pas du tout été, on ait oublié ces trucs-là, et quand la nature fait des siennes, fait des inondations, etc., on trouve ça scandaleux.
Ce que tu dis est absolument vrai pour des phénomènes d'inondation relativement simples, c'est-à-dire l'eau tombe, et elle descend beaucoup plus vite qu'elle ne descendait auparavant. Alors ça, l'exemple de Vaison-la-Romaine, c'est un des exemples de référence. Il tombe beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, mais c'est plus exceptionnel que d'habitude, parce que cette flotte n'est pas du tout retenue sur les hauteurs, pas du tout, descend à toute vitesse. Alors ça, c'est des questions d'imperméabilisation, de ruissellement, de drainage, parce que c'est à ça que ça sert, drainage, ça enlève de l'eau pour l'envoyer le plus vite possible en bas. C'est toute une série de phénomènes qui sont effectivement des phénomènes d'aménagement qui font que la flotte descend à toute vitesse. Alors t'ajoutes à ça que par ailleurs, c'était le cas à Vaison-la-Romaine, on a construit dans un endroit où c'était évident que c'était un endroit où passait la flotte, et donc la flotte est passée. Voilà, donc on s'est ramassé plein pot, donc tu as le double élément qui est pas de précaution par rapport à la zone inondable, et puis le fait que tout le bassin a été petit à petit transformé avec comme résultat tout le temps le fait que tout converge à toute vitesse au même endroit. Et donc, tu as des quantités d'eau extrêmement importantes. Donc, c'est toute la question des zones humides qui, effectivement, empêche la flotte de descendre trop vite. C'est la question aussi un peu de la végétation. C'est la question des sols nus. C'est la question du labourage vertical. Alors, on l'a mis dans l'autre sens, mais bon, on est d'accord, ça risque de pas tout à fait suffire par rapport à tous les autres phénomènes qu'on a. Mais c'est le fait d'avoir redressé les rivières pour qu'il n'y ait pas d'inondation en haut, mais du coup, l'inondation allait en bas. Tous ces éléments-là sont des éléments d'aménagement qui est que, a priori, tout ce qui accélère la descente de la flotte augmente aussi le risque d'inondation. Donc ça, c'est un premier phénomène qui, globalement, et pour la grosse majorité des inondations, est un élément aggravant évident et qui peut expliquer le fait que les inondations soient de plus en plus destructrices. Bon. Donc ça, l'élément que ça descend plus vite, et l'autre élément qui va avec, qui est il n'y a pas suffisamment de précautions et on est à des endroits où c'est évident que la flotte va passer. Mais ceci dit, dans les derniers événements qui sont passés, il y a des endroits qui n'avaient pas connu d'eau depuis 150 ou 200 ans qui ont été emportés. Et donc, il y a bien un phénomène où on a aggravé les phénomènes par la façon dont on a aménagé à l'extérieur. En gros, il y a deux éléments. Il y a un, qu'on s'est mis à des endroits où le risque était évident et répertorié, et deux, que les endroits où ce risque devient possible sont plus étendus que ceux qu'on a eu de mémoire d'homme ou même dans les archives. Donc ça, c'est les deux éléments de ça. Pourquoi c'est pas tout à fait vrai pour la Loire? C'est parce que les trois crues dont on parle, peut-être à l'exception de la dernière, mais faudrait regarder, sont considérées par l'histoire comme des crues mixtes. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un phénomène de précipitation qui décrée, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes de précipitation qui arrivent ensemble au même à un endroit. Traditionnellement, c'est des crues qu'on appelle cévenoles, qui sont des crues qui frappent le haut du massif central, des quantités de flotte qui tombent beaucoup au même endroit et qui dévalent la rivière. Mais ça ne suffit pas pour faire une crue sur la Loire, parce qu'une crue cévenole tombant à 600 km de Tours, par exemple, le temps qu'elle arrive à Tours, le pic de crue a le temps de s'aplatir, que la flotte a le temps de se répartir. Et ce qui s'est passé dans les crues qui ont été étudiées, celle de 56 est particulièrement caractéristique. En 56, il y a eu pratiquement un mois de crue, pratiquement tout le mois de mai, et la crue qui pète tout, c'est début juin. Et il y a eu de l'eau qui s'est accumulée un peu partout, et puis tout d'un coup, il y a eu un pic supplémentaire, qui, lui, a dévalé partout. Mais pour faire ça, il fallait qu'il y ait plusieurs phénomènes ensemble qui avaient créé ce mois de crue. Donc c'est la conjonction de plusieurs événements climatiques qui, d'habitude, ne sont pas conjoints et donc ne provoquent pas de trucs, mais qui, à un moment, se retrouvent ensemble. Et ça, c'est hypersensible. Parce que, justement, si on accélère à un endroit, c'est pas sûr qu'on aura accéléré à tous les autres endroits et c'est pas sûr que la conjonction se fera pareil. D'accord ? Comme c'est des problèmes de conjonction des flux qui arrivent, le fait que tout déboule en même temps, ça sera peut-être vrai sur une localité, mais c'est pas sûr que ça va se retrouver de l'autre côté. Dans les grandes crues, la Loire et l'Allier, chacune de leur côté, se sont trouvées à déborder. Des fois, pas dans les mêmes proportions. Si il y en a une qui va beaucoup plus vite et l'autre qui va pas beaucoup plus vite, ça se décale un peu, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est plus compliqué de donner les phénomènes d'interprétation de la vitesse de descente sur des crues, comme des crues complexes, comme celle-là, parce que, justement, il y a la question de la concomitance des arrivées. Par exemple, on a longtemps glosé sur le fait que c'était peut-être que s'il y avait eu ces crues à la fin du 19e siècle, c'est parce que ça descendait beaucoup de la montagne. Et ça serait plutôt un phénomène inverse, parce que la fin du 19e, c'est une période où l'occupation humaine va le plus haut. C'est-à-dire on est sur des périodes où on cherche des terres absolument et tout, on est encore sur une société agricole, et où les vallées connaissent la plus grande extension des cultures. Plus grande extension des cultures, ça veut dire moins de forêts, et donc ça veut dire a priori plutôt des trucs plus rapides. Et il y a eu des explications sur le fait que ces trois périodes-là seraient peut-être liées à ça. Honnêtement, je pense que c'est un peu hasardeux. Justement parce que ce que disent les éléments, c'est la conjonction de chaque endroit. Et donc du coup, la vitesse à laquelle ça va à un endroit n'a pas beaucoup d'incidence sur le fait que ça va se retrouver au même endroit sur une autre rivière. Voilà. En très gros, sur des phénomènes ponctuels, mais de toute façon, en général, il vaut mieux retarder, il vaut mieux retenir. Alors je rappelle qu'en plus, plus on retient l'eau dans les zones où ça s'infiltre, moins on a de problèmes de quantité après, parce qu'on a des sols qui sont chargés d'eau, qu'on a des nappes qui se chargent d'eau, etc. et tout, hein. Donc ça, c'est l'eau de volée. Mais ça a aussi, comme c'est des phénomènes de retardement de la descente, ça a des incidences sur l'inondation. Tous les bassins disent que un des éléments de protection contre l'inondation, c'est de garder l'eau le plus possible sur les hauts bassins. C'est vrai aussi dans l'usage de l'or Bretagne. On l'a fait rajouter même ça, je crois. Le fait que dans la protection contre les inondations, il ne faut pas seulement regarder ce qu'on fait en bas, mais il faut aussi regarder tout ce qui s'est passé en haut, parce que c'est aussi ça qui va venir.
Pendant des siècles, dans cette région, apparemment, les gens ont vécu avec les inondations. C'était intégré dans le mode de vie, dans l'architecture. On semble avoir oublié ce truc-là et on s'insurge quand la nature, ou en l'occurrence le fleuve, ose faire des crues.
On va mettre un peu de complexité dans ce que tu dis. Oui, c'est très caractéristique dans la Loire. On montre un certain nombre de maisons, je crois que c'est du côté de Brémont, où il y a un corbeau. Tu as la maison en bas, tu as une grande grange au-dessus. Au-dessus de la porte de la grange, tu as un moellon qui dépasse et sur lequel tu vois bien qu'il y a moyen de mettre un palan pour monter les meubles. Donc, c'est des endroits où on sait que la flotte va passer et où on s'est préparé à ce que la flotte passe. Et c'est pas très compliqué. Quand on voit qu'il va y avoir quelque chose, on monte tout ce qui craint dans la grange et on est 3-4 mètres au-dessus du niveau du sol. C'est une bonne marge de sécurité et ça fonctionne. Donc, oui, il y a eu, y compris sur le long de la Loire, il y a eu une habitude de fonctionner avec l'inondation, de vivre avec. Et quand on sait que ça va arriver, on n'a pratiquement pas de risque parce qu'on sait où se mettre quand ça va venir. On limite les dégâts,
on monte les meubles,
on s'adapte, voilà. On ne laisse pas la grosse table en chêne dans le bas de la pièce parce qu'il n'y a rien de pire. Enfin, une grosse table en chêne, c'est absolument extraordinaire. Quand la flotte passe en dessous, rien ne lui résiste. Il n'y a pas une cloison qui résiste. Ça se met à tourner, c'est abominable. Voilà.
Elle flotte et elle tape sur les murs.
Ah, mais il vaut mieux pas être en dessous, hein, parce que coincé entre... Bon, bref. Je dis ça parce que l'exemple de petits moulins qui ont été remis en résidence secondaire, dans laquelle on a mis une belle table, machin, etc., et où la table a bousillé tout l'intérieur, l'illustration du fait de ne pas voir où on est. Oui, il y a eu ça. Mais en même temps, tout le développement s'est fait en allongeant les levées. Parce qu'il faut se souvenir de ça, il n'y a pas de levée naturellement hein, dans la Loire. Elle commence à apparaître, je crois que c'est vers 1100 ou 1200. Hein, la littérature attribue ça aux Plantagenêts. Hein. Et donc, on sait que ce n'est pas continu pendant un certain temps. C'est des protections locales, et tout, ça passe de chaque côté. Et petit à petit, et au fur et à mesure que le pouvoir s'unifie, hein, ça devient des digues continues. Et quand la digue est continue, d'une certaine manière, il commence à s'installer le fait que ça ne va pas passer par-dessus. Alors, pas tout le temps, ça passe aussi. Mais du coup, quand ça passe par-dessus, on se dit quand même, ça serait bien si ça passait pas. Et donc, on remonte. Et donc, il y a toute une histoire qui conduit jusqu'au milieu du 19e, là, où on remonte l'élevé à chaque fois. C'est-à-dire, ça passe, on remonte l'élevé. Et puis là, il y en a trois de suite. Alors, effectivement, on se dit, mais ah, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on va arrêter de remonter la levée, parce que après celle de 46, on a commencé à la relever, et la levée de 56 est arrivée par-dessus, et tout, elle a tout emporté. Donc on s'est dit, bon, peut-être que c'est pas la bonne solution, on arrive la levée de 66 par-dessus. Donc il y a un ingénieur, je suis plus sûr qu'on appelait ça ingénieur à l'époque, qui s'appelait comme moi, qui crée un plan global sur la Loire, en disant, il faut créer des déversoirs. C'est-à-dire, en gros, il faut permettre à l'eau de rentrer à certains endroits pour être sûr qu'aux autres endroits, ça pète moins. Voilà, bon. C'est intéressant parce que dans ces déversoirs, il n'y en avait pas à Tours. Mais on voit bien quelle est l'idée. Hein. L'idée, c'est, tant qu'à faire si ça passe, autant contrôler où ça passe. Bon. Alors, premièrement, il y en a eu quelques-uns de construits, mais pas beaucoup. Bon, il y a une bonne dizaine de construits. Il y en a un à Jargeau, il y en a un du côté de Villandry. Il y a plusieurs endroits où ils ont été construits, mais ils n'ont pas tous été construits. Puis petit à petit, ils ne se sont pas construits. Pour une raison simple, hein, c'est que quand on dit à des gens « Là, on va faire passer l'eau pour inonder votre valle, pour que ça inonde pas les autres », c'est un peu compliqué à faire passer et tout. Et en plus... Maintenant, des endroits où on peut dire « c'est pas grave, si la flotte rentre, ça n'existe plus, ça s'est peuplé à peu près à tous les coins ». Et donc maintenant, il faut expliquer « vous êtes moins nombreux que dans le truc d'à côté, donc c'est pas grave si la flotte rentre chez vous ». En fait, ça commence à devenir totalement pas possible. Et puis surtout, ça développait une espèce d'irresponsabilité de ceux qui étaient protégés. C'est-à-dire, ceux qui voyaient passer l'eau, ils se disaient « pourquoi pas, ça vient et tout ». Mais ceux qui étaient protégés, eux, ils se disaient « ça va pas, ça va plus ». Et le dernier à avoir développé ce type de truc-là, c'est Jean Royer. le maire de Tours, qui avait développé toute une série de stratégies pour que sa ville soit considérée comme jamais inondable.
Il a été maire de Tours pendant plus de 30 ans. Hein.
En tout cas, il est l'expression très claire de cette vision qu'on va dompter la nature. Dompter la nature, il l'a utilisé je ne sais pas combien de fois. C'est pompidolien.
Délire, canaliser la Loire. Il nous a fait des beaux trucs, remarque. Hein. Là où il y avait un canal qui rejoignait Loire et Cher, aujourd'hui on a l'autoroute A10 qui passe.
Ouais.
Et son projet délirant, c'était bétonner la Loire. Lui, bétonner un lit.
Le projet le plus délirant, c'est probablement la Gloriette, hein, qu'il n'a pas fait. Mais par contre, le projet de l'autre côté, là, ce qui s'appelle les Technopoles, ce qui s'appelle les Deux Lions, etc. et tout, là, il a quand même remblayé 60 hectares sur 5 mètres de haut, quand même. Hein. Ça en fait des camions. Moi, je suis allé regarder ce qu'il mettait dedans, parce qu'il fallait vérifier qu'il n'y mettait pas trop de plâtre. Il en mettait un peu, hein, et tout. Donc peut-être on subira les conséquences de ça à un moment ou à un autre. Mais bref, il a fait ça, et sur la Gloriette, son projet était un projet réellement délirant. Ça consistait à faire non pas des levées pour empêcher que l'eau passe par-dessus, mais ça consistait à faire des murs verticaux qui allaient être ancrés sur le sol, sur le substrat, de manière à ce que l'eau ne passe pas par en dessous. C'est-à-dire, toutes ces rivières ont des communications avec leur nappe, qu'on appelle nappe d'accompagnement, nappe alluviale, etc. Et tout. Et l'idée, c'était de couper la communication entre la rivière et la nappe. Parce que il avait constaté que la plaine de la Gloriette, elle était souvent inondée par remontée de l'eau de la nappe. Et donc son idée géniale, c'était on interdit... Du coup, il avait une nappe qui était isolée de la rivière, et là-dessus, il creusait des canaux pour faire la Venise tourangelle. Transformer une zone inondable en une zone de maison, séparée par des canaux avec des barques qui permettraient... Voilà. Il y avait juste un inconvénient, c'est qu'elle ne pouvait pas aller vers le Cher, parce que justement, on avait coupé la communication avec le Cher, donc là, il fallait quand même un peu passer par... Il y a des plans, hein, mais ça reposait intégralement sur le fait que nous, on se protégeait parce que tous les autres ont récupéré toute la flotte et empêchaient qu'elle arrive jusqu'à nous, ou du moins, ils la relâchaient que par petits morceaux. D'accord ? C'était ça l'idée. Cette idée-là, alors celle-là, c'est vraiment l'exemple de l'idée criminelle, quoi. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait tout ça, alors d'abord, ça suppose que tous les autres acceptent de ramasser la flotte pour que toi tu puisses. Hein. Et puis surtout, si jamais tous les réservoirs qu'on a mis au-dessus sont pleins, ce qui s'est passé en 1856, qu'est-ce qui se passe quand la pluie d'après arrive ? Quand la pluie d'après arrive, elle passe par-dessus tous les endroits qu'on avait déjà prévus. Et c'est là que le gars qui est en dessous, qui se croyait à l'abri, ramasse une vague qu'il n'a absolument pas prévue et ramasse tout. C'est ça qui est totalement dramatique dans la stratégie. Il s'est passé quelque chose de réellement intéressant dans l'Indre-et-Loire, peu connu, c'est que en 2016, la métropole de Tours a adopté une stratégie de lutte contre le risque d'inondation, SLGRI, stratégie locale de lutte contre l'inondation, dans laquelle on prévoit explicitement le fait de faire un dispositif de surverse contrôlée, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire un déversoir, qui permette de faire rentrer l'eau dans le val, et donc exactement l'inverse de ce qu'on faisait auparavant, hein, la faire rentrer dans le val, de manière à ce que ça soit un peu contrôlé, c'est-à-dire qu'on n'attende pas qu'il y ait une brèche qui se passe forcément à un endroit qu'on n'avait pas prévu, et qui du coup devient totalement dramatique parce que tout ce qui est derrière est emporté, etc.
On a un exemple, hein, à Saint-Michel-sur-Loire, la digue a pété en 66, il y avait un château, et là où la digue a pété, en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus de château.
Oui, mais il y a un trou.
Une vague qui est capable d'emmener un château.
Absolument. Et puis, alors, il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'on sait que, regardez toutes les grosses catastrophes, l'eau, c'est ravageur, mais alors, l'eau chargée de boue, alors ça, c'est un bulldozer, ça emporte absolument tout. Et c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire que quand l'eau passe et emporte une partie de la digue, c'est plus de l'eau, c'est de la boue qu'on ramasse. Voilà. Donc, il y a toute une analyse sur ces questions-là, c'est-à-dire, un, ça pète n'importe où et donc on ne maîtrise rien du tout. Deux, ça emmène des matériaux solides et donc c'est bien plus destructeur que si c'est que de l'eau. Trois, comme c'est une brèche qui se crée, elle continue à descendre, et elle descend beaucoup plus bas que si on l'a contrôlée, parce qu'on a prévu un sol qu'on a pavé et qu'on a renforcé, et donc ça descend plus bas, donc c'est plus fort, donc c'est plus violent. 4, ça se referme beaucoup moins facilement Parce que quand on passe sur un dispositif de surveillance qui n'est pas emporté par l'eau, quand l'eau baisse dans le lit, il y a un moment où il arrive sous le dispositif de surveillance. Et donc, elle arrête de rentrer. Si par contre c'est une brèche, la brèche, c'est totalement dévastateur. Ça emporte toute la levée, jusqu'au niveau du sol, même des fois même un peu en dessous. Et donc, quand le niveau baisse dans la rivière, il arrive assez vite en dessous du niveau de la digue, mais pas en dessous du niveau de la brèche. Et donc ça continue à rentrer par la brèche. Et donc si on veut que ça ne rentre pas éternellement, il faut se donner les moyens de conserver une certaine hauteur. Et le dispositif de surveillance contrôlé sert à ça. Donc tous ces éléments-là, plus ce qui est probablement fondamental, le fait d'installer clairement l'idée que on a accepté l'idée que l'eau passerait, et que donc on se met dans la situation d'être en capacité de s'adapter quand l'eau passera, en espérant qu'elle passe pas, mais c'est pas la question. C'est est-ce qu'on est capable de l'empêcher? Tous ces éléments-là sont des éléments extrêmement novateurs. Ce qui est dommage, c'est que cette stratégie-là a été adoptée en 2016 et que clairement, je pense que les 95% de la population ne savent pas qu'on a adopté cette stratégie. Or, cette stratégie, elle marche si justement la population sait ce qu'on est en train de faire et si elle est consciente de ça.
On arrive bientôt au terme de cette spéciale crues et inondations, toujours avec Gilles Deguet, membre de France Nature Environnement, siégeant au comité de bassin Loire-Bretagne. Pour parler de l'eau en général, à titre d'exemple, on vous parle beaucoup de la Loire qui passe par l'endroit où on enregistre cette émission. On est à Tours, Indre-et-Loire, région centre, et la ville voisine de Tours, la Bourgeoise, c'est la ville prolo de Saint-Pierre-des-Corps. Et d'ailleurs, assez bizarrement, en cas de crue, il semblerait que c'est Saint-Pierre-des-Corps qui morflerait plus que Tours. L'une des nombreuses choses à retenir dans ce que tu as dit, Gilles, ne pas se penser plus fort que la nature et aller avec plutôt qu'aller contre. Suivre le courant, quoi, être fluide.
En très gros, c'est être capable de vivre avec et pas contre. Dompter la nature, on oublie, d'accord ? La comprendre et être capable d'avoir le comportement adapté par rapport à ce qui va se passer, c'est un peu ça le signe de l'intelligence, quoi, hein, grosso modo. Hein. C'est pas de se mettre devant en disant ça se passera jamais. En 92 ou 13, je ne sais plus, la ville de Saint-Pierre avait organisé un grand conseil municipal en plein air sur l'élevé, en disant « il faut absolument construire le barrage du Verne ». C'était une grosse pétition, etc. Le public était invité. Et le public était « ouais, il faut construire ». Enfin bon, ouais, un peu grand-messe quand même. Hein, et tout, c'était conseil municipal, un peu organisé. Et moi, j'étais sur un banc. Et à un moment, je me suis levé et j'ai dit « non, je pense que c'est pas une bonne idée de construire le Verne et tout, parce que ça va donner l'impression, enfin, ce que je viens de dire, quoi, hein, grosso modo. » Et quelqu'un a dit « oui, mais qu'est-ce qu'on fait ?» contre l'inondation. Et j'ai dit, ma première chose à faire, c'est de se sauver. Et ça a été considéré comme quelque chose de totalement un abandon du progrès, quoi. Et j'ai dit, bah, vous faites comme vous voulez, mais quand même, si vous voyez passer une vague, quand même, vous restez pas devant en disant, le progrès va me sauver, vous vous tirez quand même. Non, c'est juste rationnel. Alors après, on se donne tous les moyens pour pas y être. Comme ça, on a pas besoin de se tirer si on y est pas. On se donne tous les moyens de pas être vulnérable. Mais tout ce qui va laisser penser qu'on s'est complètement prémuni, tout ça, on le paye à un moment ou à un autre. Eh bien, j'ai encore la photo, je suis vraiment très seul. sur la levée, je suis vraiment très seul. Cette position-là, qui était même pas entendable en 92, c'est quasiment la doctrine officielle maintenant. De ce point de vue-là, il y a quand même un peu un progrès. Après, c'est comme souvent, hein. Ça progresse dans les têtes, c'est plus difficile à progresser sur le terrain. Parce qu'il y a des pesanteurs de toutes sortes. Je me souviens d'une discussion intéressante qui est passée à Saint-Pierre-des-Corps aussi, c'était « il faut absolument qu'on ait un EHPAD à Saint-Pierre-des-Corps ». Avec cette idée, pas totalement idiote, que c'est des collectivités et tout, et que si on n'a pas les vieux auprès, on perd un peu quelque chose. Bon. Il y avait quelqu'un de l'État qui disait « mais je peux pas mettre un EHPAD dans un endroit qui est inondable ». Ici, c'est 4 mètres quand même, hein, la flotte, hein, quand ça passe. Hein. C'est pas 50 cm. Hein, non. Mais même déjà 50 cm, un EHPAD avec 50 cm de flotte, bonjour, pour le gérer. Hein, mais bon. Donc voilà, je vais pas vous mettre un EHPAD à cet endroit-là. Il y a quelqu'un qui dit, quand même, le délai d'attente ici, c'est 3 jours. Et ça, c'est pas faux. Comme les sources d'inondation ici, alors je ne dis pas Vaison-la-Romaine, hein. Je ne dis pas tout le sud, je ne dis pas plein d'endroits, y compris dans notre zone, où c'est des phénomènes qui sont en train d'arriver avec le changement climatique, où tout d'un coup il tombe des paquets de flotte qui correspondent à 2 mois de précipitation, à un seul endroit totalement concentré. Et là, ça vient tout de suite, et ça pose des problèmes effectivement assez dramatiques, parce que la question de l'alerte se pose complètement. Il se trouve que sur la Loire a pratiquement pas d'affluent principal depuis le bec d'Allier jusqu'à l'arrivée de l'Indre dans la Loire. C'est lié à des histoires de géologie. Il y a quelques affluents qui drainent la Sologne au sud, mais autrement, il n'y a pas. Hein. Le premier affluent vraiment fort, c'est d'abord le Cher d'ailleurs, hein, puis l'Indre. Donc on voit bien, jusqu'à Tours pratiquement, il n'y a pas d'affluent principal. Ce qui veut dire qu'un pic de crue, on le voit au bec d'Allier. Et on a un peu le temps de s'y préparer. On estime que c'est à peu près de l'ordre de 2 à 3 jours. Et donc, dit l'habitant de Saint-Pierre-des-Corps, mais on a quand même 3 jours pour évacuer l'EHPAD. Et le mec de la préfecture dit, oui, ça je comprends, mais on les met où, les gens qu'on évacue? Alors quelqu'un dit, oh, bah, on va bien trouver des places dans les EHPAD qui sont tout autour. Et là, je ne sais pas qui c'est qui dit, on voit bien que vous n'avez jamais cherché de place pour mettre quelqu'un dans une EHPAD pour imaginer qu'il y a suffisamment de place pour récupérer tous les gens que vous videz d'un EHPAD dans les EHPAD au voisinage. Moi, j'ai mis 5 mois pour obtenir une place pour ma mère, et donc c'est pas si simple que ça. Alors, le mec, il dit, il n'y a qu'à en construire. Et le mec de la préfecture lui répond, c'est exactement ce qu'on va faire, on va en construire. Mais on ne va pas y loger vos vieux une fois tous les 100 ans, on va les loger tout le temps. Et donc on ne va pas en mettre dans le Val. Voilà. Mais c'est un truc complètement intéressant, ça, parce que ce qu'on voit bien, c'est que l'idée de l'inondation, elle semble être passée, mais elle n'est pas dans toute son acception, elle n'y est pas complètement. Voilà. Il y a plein de stratégies qui sont en train de se développer dans tout le Val. Hein. À chaque fois, on regarde, en situation de crise, où sont les postes de commandement. Presque une fois sur deux, le poste de commandement, il est sous l'eau. Mais même ici, on peut regarder, hein, où sont les pompiers? Sérieux, ils sont à un endroit où la flotte, elle passe à tous les coups. Bon. Alors d'accord, ils sont sur 3 étages, 4 étages, mais les camions sont quand même en bas. Hein. Donc s'il y a 2 mètres de flotte à cet endroit-là, les camions, ils ont de la peine à passer. Et on a un hôpital qui est en pleine zone inondable aussi. Hein. Tout ça, c'est pensé comment, quoi, par rapport à la zone inondable? C'est un peu complexe. Donc pour que ça rentre réellement dans les faits, il suffit pas que ça soit écrit, que ça soit pensé, que ça soit tout ça. Il faut aussi que ça suive du point de vue d'habitudes qui sont très très solidement ancrées. Peut-être que ce qui est en train d'arrêter, c'est l'idée que n'importe quelle commune doit absolument augmenter sa population. Ça, c'est peut-être quand même un peu en train de passer, quoi. Mais dans une zone inondable, augmenter la population, c'est augmenter le nombre de personnes à évacuer. Hein. Donc il y a des limites, quoi. Voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est plus difficile à faire passer.
Bah oui, hein, on peut toujours comprendre plein de choses et prendre des tas d'engagements. Entre la théorie et la mise en acte, il y a toujours comme une marge. On en reparlera peut-être si certains se retrouvent un jour avec 1 mètre de flotte dans leur rue ou dans leur salon. En tout cas, c'est ici que s'achève cette nouvelle conversation fleuve avec Gilles Deguet, militant écolo, membre de France Nature Environnement et siégeant au comité de bassin Loire-Bretagne. Émission en écoute sur notre site, polémix et lavoixoff.com, ainsi que tous les épisodes de cette série Au secours. On se retrouve très bientôt sur ta radio préférée pour la suite. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut,
terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.